Bonjour à tous et à toutes. C'est bien de voir tant de monde de présent ce matin et d'imaginer ceux qui nous regardent par le biais de cet appareil qui est juste là, cette caméra. Merci pour toute l'équipe qui se met en place. Apparemment, il reste encore des places pour ceux qui aimeraient prendre cette responsabilité. Vous savez, il y a plusieurs façons de servir le Seigneur et de nous servir les uns les autres. Et il y a toutes sortes de compétences. Nous en avons besoin de toutes. La Bible dit qu'il y en a dans l'Église qui sont comme les yeux, il y en a qui sont comme les oreilles, les doigts, les mains, les pieds. Et tout est utile et tout est important. Donc, si ça vous chante de vous joindre à l'équipe de... Comment vous appelez l'équipe là? Audiovisuel. Il s'appelle pas. En tout cas, vous pouvez vous proposer aussi pour ce travail. Merci pour eux et pour tout le travail qu'ils font pour chacun d'entre nous. Nous allons reprendre nos études sur la vie de Moïse. Ça, c'était un homme, un homme extraordinaire. D'ailleurs, j'aime bien toutes les biographies bibliques. J'ai quand même quelquefois un petit problème en les lisant. J'ai l'impression de me trouver devant des espèces de super-héros spirituels. À vous? Eh oui, pensez à Abraham un instant. Vous avez peut-être vos préférés, mais pensez à Abraham un instant. Il a eu une seule vision d'un Dieu qu'il, apparemment, il ne connaissait pas avant. Et puis, il a plié ses bagages, il a emporté sa femme, son neveu, son père, et tous ses biens, il est parti vers où? Ben, il ne savait pas. Il ne savait pas où il allait. Il est parti à l'aveugle, et il a suivi l'Éternel. Et puis, plus tard, on va dire au moins 25 ans, sinon 30 ans plus tard, lorsque finalement il a eu ce que le Seigneur lui avait promis, un enfant, et ce garçon commençait à grandir, le Seigneur a dit, quoi? Ben vous allez maintenant sacrifier son fils, à votre fils là. Et il a accepté de le faire. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Puis je pense à Jacob, c'est peut-être pas votre préféré, n'est-ce pas? Mais j'ai pensé à Jacob aussi, le petit-fils d'Abraham. Et Jacob, à un moment donné, il a dû lutter pendant 20 ans, au moins, contre un oncle qui ne cherchait à s'enrichir à son dépens, à le tromper à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Et il a tenu tête. Et quand il est rentré chez lui, qui a-t-il rencontré sur son chemin? Dieu lui-même. Et pendant une bonne partie de la nuit, il a eu une espèce de corps à corps, une lutte avec l'Éternel. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Jacob a été vainqueur. Incroyable. Incroyable. Et ça lui a valu un nouveau nom, un surnom. Israël, le nom qu'a porté tout le peuple après lui. Et puis, qui ne pense pas à David, n'est-ce pas? Jeune adolescent. Est-ce qu'il y a des adolescents qui sont là ou derrière l'écran? Oui, peut-être ils sont tous montés, mais... adolescent, jeune adolescent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, vous savez aussi bien que moi, n'est-ce pas? Il affronte le géant philistin Goliath. Alors que tous les autres soldats de l'armée israélienne étaient tétanisés de peur. Et lui, il va. Peut-être c'est l'insouciance, pensez-vous, de la jeunesse. Non, la Bible dit que c'était à cause de sa foi. Et il est allé affronter ce géant, et qui a gagné? Ben, David. Incroyable! Incroyable. Y a-t-il des David parmi nous? Hein, voilà, il y a... C'est Benjamin. David. Merci, Benjamin, David. Oui. Dans le Nouveau Testament aussi, nous rencontrons des hommes et des femmes extraordinaires, n'est-ce pas? Je pense à Pierre. Pierre. Alors, il était dans la barque avec les autres disciples. Ils sont tous là. Il y a la tempête qui s'abat sur la mer de Galilée. Et ils sont ballottés. Et tout d'un coup, ils voient Jésus venir vers eux. Et qu'est-ce qu'il demande? Seigneur, si tu veux, invite-moi, je viendrai vers vous en marchant sur les eaux. Quoi? Et quand le Seigneur a dit, bon, d'accord, venez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait! Il est descendu. Bon, à un moment donné, il lève les yeux et il regarde le vent et les vagues et tout ça, il commence à sombrer, mais le Seigneur l'a attrapé. Apparemment, je crois, hein, que Pierre croyait qu'il était plus en sécurité en dehors du bateau, mais avec son maître, que dans le bateau sans son maître. Mais la réalité était que Dieu était présent partout. Il était dans le bateau comme il était en dehors du bateau. Et mais ça vous serait jamais venu à l'esprit de demander de marcher sur les eaux comme ça? Moi, j'aurais. Il y avait 11 autres hein, qui étaient dans le bateau. Et il était le seul à dire au Seigneur, invite-moi, je viens vers vous. L'apôtre Paul a dit aussi, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, 8 et 9. Mes amis, cet homme-là a l'air d'être indomptable. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Et que dirais-je encore de toute cette nuée de témoins que la Bible présente en, par exemple, Élie, Joseph, Daniel, Jean-Baptiste, et les femmes aussi, hein, il y a des femmes extraordinaires dans la Bible, comme Déborah, la prophétesse, qui elle devait accompagner Barak pour gagner la guerre contre les ennemis, sinon Barak, il n'avait même pas le courage d'y aller. La mère de Samuel, comment s'appelle-t-elle? Anne, très bien. Et puis la mère de Jésus? Très bien. Merci David. Eh oui, il y a tous ces grands personnages dans la parole de Dieu. Et j'aime bien, je suis passionné de lecture biographique dans la parole de Dieu, mais franchement, des fois, ça m'embarrasse un petit peu. Parce que j'ai l'impression d'être devant des personnages qui flottent quelque part là-haut dans le stratosphère spirituelle, alors que moi, j'ai du mal à me tenir debout sur la terre. Et c'est peut-être pour cela ce que Jacques a écrit par rapport à un autre de ces personnages, que ça nous surprend tellement. Il a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Quoi? Élie, sa vie était ponctuée de miracles. Il est monté au ciel sans mourir. Lui, comme moi. Selon Jacques, oui. C'était un homme comme vous, comme moi. Mais nous oublions, je crois, quelquefois, que ces grands personnages dans la Bible, et je ne veux rien les retirer hein, de ce qu'ils méritent, mais ces grandes personnes-là avaient quelquefois des doutes, tombaient en dépression, avaient leur faiblesse. Et là, dans cette parole de Jacques, je trouve une bonne nouvelle pour moi. Je trouve une bonne nouvelle. Parce que ça me rappelle que Dieu, il est capable de prendre des hommes et des femmes ordinaires et intervenir dans leur vie par sa grâce pour les fortifier à accomplir pleinement sa volonté. Que cette volonté semble simple au début, facile, ou quasiment impossible. Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Toute la gloire revient donc à lui. Alors Moïse, c'est comme un de ceux-là, n'est-ce pas? Il a fait aussi des choses extraordinaires. Il a parlé avec Dieu face à face, non pas seulement devant le buisson ardent, mais à plusieurs reprises dans sa vie, il avait cette relation absolument unique dans l'histoire avec Dieu. Il a appelé l'Égypte sur l'Égypte. Il a ouvert la mer. Enfin, c'est Dieu qui a ouvert la mer rouge, mais à chaque fois, on voit que c'est lui qui, au moment qu'il fallait que Dieu intervienne,
il tend sa
verge vers le Seigneur dans ce geste de foi, et Dieu est intervenu. Et il a accompagné le peuple d'Israël à travers la mer Rouge, comme ceux de la terre sèche. Il a dirigé Israël dans le désert à travers maintes difficultés et dangers. Il a reçu la loi de l'Éternel, comme nous l'avons vu la dernière fois, sur la mont Sinaï. Il faut pas oublier que c'était en feu, il y avait de la fumée, il y avait des trompettes qui sonnaient. Ça a effrayé tous les autres, et ils ont dit, va-toi, va rencontrer Dieu, tu écouteras ce qu'il te dira, et puis tu reviendras nous le raconter. Et il est parlé, Mais il est aussi vrai, dit la Bible, que Moïse a cherché à délivrer Israël au début, sans attendre ni l'appel, ni la puissance de Dieu. Il est vrai aussi qu'il a tué un Égyptien. Ah oui, parce que souvent, quand on se met sur une mauvaise voie, une faute en entraîne une autre. Et il a tué un Égyptien, il a cherché à dissimuler son crime dans le sable. C'était découvert. Il a refusé aussi quand finalement, 40 ans plus tard, Dieu l'appelle à retourner, affronter le Pharaon. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'il a dit, comme nous avons chanté tout à l'heure, juste avant la prédication, hein, « Je suis prêt à faire ta volonté, Seigneur », c'est ce qu'il a dit? Ah non, il a cherché toutes les excuses possibles. Et il revenait chaque fois que Dieu répondait à une excuse, il revenait avec une autre. Il n'était pas prêt à faire la volonté de Dieu. Et puis, on lit également qu'il y avait une fois dans le désert où le peuple avait besoin d'eau, et Dieu lui avait montré un rocher là dans le désert, et Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais sans doute dans un excès de frustration et même peut-être de colère, il a pris ce même bâton qu'il avait l'habitude de lever, mais au lieu de lever vers l'Éternel, il a frappé le rocher. Dieu, dans sa grâce, a donné l'eau. Mais ce n'était pas à la gloire de l'Éternel. Il aurait dû lever vers l'Éternel ou parler au nom de l'Éternel. Mais il n'a pas fait. Et à cause de cela, il n'a jamais pu entrer dans la terre promise. Oui, il était un grand homme, mais il y avait aussi des moments d'hésitation, de doute, de frustration, de colère peut-être. Et je ne sais pas pour vous, mais je me retrouve parfois dans ces hésitations. Je me retrouve parfois dans ces doutes. Je me retrouve peut-être même plus souvent dans ces faiblesses que dans ces choses extraordinaires qu'il a faites. C'est que moi, j'ai besoin autant de la grâce de Dieu dans ma vie qu'il en avait besoin dans la sienne. N'est-ce pas? Et Dieu est prêt à nous la donner. Mais comment est-ce que Moïse, il a obtenu cette grâce de Dieu? J'étais encouragé en lisant les 5 premiers livres de la Bible, de découvrir que le plus souvent, il obtenait la grâce de Dieu pour accomplir sa volonté en réponse à la prière. J'ignorais à quel point cet homme était un homme de prière. Vous savez, j'ai compté. J'ai trouvé au moins 20, sinon 30 fois qu'il s'est adressé à l'Éternel dans ses 5 premiers livres. Mais je n'ai pas comptabilisé chaque fois que l'Éternel a pris l'initiative d'engager la conversation avec lui et qu'il a répondu. Il y a peut-être 50-60 fois qu'il est là, à genoux, ou dans une circonstance ou une autre, en dialogue avec l'Éternel. Est-ce que notre vie est caractérisée par ces moments d'intimité avec Dieu? Où nous lui parlons et il nous parle également. Oui, quand je parle de la grâce de Dieu dont j'ai besoin, que Moïse avait besoin, je parle nous donnons une petite définition de la grâce de Dieu. On parle de la faveur imméritée
de Dieu.
C'est plus court, une définition que j'ai jamais entendue, elle est pas mal. Comme moi j'aime les choses compliquées, j'ai fait une définition qui pour moi est, c'est pas plus exact, mais qui exprime à ma façon ce que c'est la grâce. La grâce, quand je parle de la grâce, je parle des interventions de Dieu dans ma vie, dans nos vies, que je n'ai pas méritées, et pour lesquelles il ne va jamais me réclamer des contreparties, mais pour transformer mon cœur, pour transformer aussi mes capacités, et parfois même pour transformer les circonstances de ma vie, afin que je puisse accomplir par lui toute sa volonté. C'est ce que Dieu propose pour chacun d'entre nous. Et Moïse a trouvé souvent, enfin, foi après foi, la grâce de Dieu pour accomplir les choses qu'aujourd'hui on dit, il n'y avait pas de Moïse hein, dans l'histoire du monde. Il était exceptionnel. Est-ce qu'il était exceptionnel? Non. C'était un homme de la même nature que vous et moi, mais qui avait un Dieu exceptionnel. Et il était en relation avec lui. Alors j'ai étudié un petit peu la vie de prière de Moïse et j'aimerais juste partager dans les quelques minutes qui nous restent là des trouvailles, hein, des choses que j'ai découvertes en étudiant la vie de prière de cet homme-là. La première chose, que pour lui la prière était une rencontre personnelle avec Dieu, tout simplement. On peut définir la prière comme on veut, mais il faut qu'on considère que c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Est-ce que c'est de cette façon que nous imaginons la prière lorsque le matin, ou avant les repas, ou à tel moment dans notre vie, nous nous adressons à Dieu? Est-ce que nous sommes véritablement conscients que le seul Dieu vrai et vivant, il est là? J'avais un professeur quand j'étais à la fac de théologie, et il a essayé de décrire ce que c'était la prière pour lui. Il a dit, pour moi, c'est comme quand je me lève le matin, j'ouvre les fenêtres, et j'ouvre les volets, et je vois que Dieu est là. Il me regarde, et je découvre qu'il a veillé sur moi pendant toute la nuit. Ah non, c'était pas simplement une espèce d'exercice religieux à laquelle il s'adonnait, hein. Non, c'était sa façon de rencontrer sa meilleure amie, son meilleur ami. C'est Moïse, c'est vrai que Moïse, il avait l'avantage de rencontrer Dieu d'une façon tout à fait inattendue. Il entendait sa voix. Moi, j'ai jamais entendu la voix de Dieu comme cela, vous non plus. Parfois, il voyait même Dieu devant lui. Il voyait son trône. Et là, des fois, je me dis, oh ben, dis donc, hein, si moi je pouvais avoir une expérience comme ça, ça changerait aussi ma vie de prière. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir une vision comme celle de Moïse pour me rendre compte que Dieu est là avec moi? Souvenez-vous de Thomas. Et Dieu lui a dit, toi, Thomas avait réclamé de mettre son doigt hein, dans les plaies de Jésus, et sinon il n'allait pas croire. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et Jésus lui a donné cette permission-là. Il a vu, il a cru. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas après? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons la parole de Dieu. Et vous savez, moi, je suis absolument convaincu, et je crois que vous l'êtes aussi, que la parole de Dieu est la vérité. Alors si la parole de Dieu est la vérité, ça signifie que Moïse a eu une vraie rencontre avec Dieu, il a entendu une vraie voix, il a vu l'Éternel, et il a eu une expérience incroyable, je n'en doute pas. Et encore plus, je n'ai pas besoin d'avoir une vision supplémentaire pour me convaincre que Dieu est là. Il n'est pas là seulement quand je plie mes mains, hein, Et quand je baisse la tête et que je ferme les yeux, il est là tout le temps. Mais peut-être par ces petits gestes, je me rends davantage compte. Je fais abstraction de tout le reste et je me rends compte qu'il est là. Vous savez que lorsque nous ne prions pas comme si Dieu était là. Nous prions parce qu'il est là. Et nous avons cette conviction qui nous écoute. L'apôtre Paul, quand il était à Athènes, et il parlait aux philosophes qui étaient là, il leur a dit ceci, « Dieu n'est pas loin de chacun de nous. » Et il a dit ça aux païens. Il n'est pas loin. Dans un autre passage, il a dit, « Nous n'avons pas à monter au ciel comme pour faire venir Dieu. » Ou s'il est en bas dans la terre, nous n'avons pas à descendre dans les profondeurs de la terre pour le remonter. Il est là, tout le temps. Est-ce que je me rends compte, quand je prie, que je suis devant un être vivant? C'est absolument essentiel, je crois, de comprendre que dans sa vie, il avait cette image de Dieu qui était là, en présence de lui. Ça, c'est la première chose que je vois dans son expérience de prière. Mais la deuxième chose, c'est que, apparemment, il ne pensait pas qu'il devait suivre une espèce de technique ou programme ou quelque chose de spécial pour formuler bien ses prières, pour attirer l'écoute de l'Éternel. Il ne suivait aucune technique quelconque pour s'adresser à Dieu. Vous savez, j'ai regardé un petit peu, il prenait différentes positions. J'étais quelquefois dans les églises où quand c'était le moment de prière, tout le monde se tournait et se mettait à genoux. D'accord. Je pense que parfois, peut-être il se mettait à genoux. Souvent, Dieu l'a arrêté en chemin et il était sans doute debout. Il est dit que quelquefois, il était assis. Même quelquefois, il est dit dans la parole de Dieu qu'il s'est mis exprès à plat ventre devant le peuple ou devant l'Éternel lui-même quand il est entré dans le tabernacle. Différentes positions. Et à différents moments aussi, et différentes façons de prier. Quelquefois, ses prières se résumaient à une seule phrase. La plupart des fois, français, c'était très court comme ça. C'était pour réclamer la justice de Dieu. Seigneur, n'écoute pas leurs prières. Point. Mais quelquefois, et ça pour réclamer le pardon et la bénédiction de Dieu sur un peuple qui ne méritait pas, il pouvait passer des jours et des jours et des jours dans la prière. Vous savez, dans le Moyen-Orient de l'époque, l'époque de Moïse, on imaginait la prière comme toute autre chose. On pensait que c'était quelque chose qu'il fallait apprendre par cœur. Il fallait s'adresser à la divinité à tel moment ou tel moment. Et pas d'autre. Il fallait réciter exactement des formules. Donc ça signifie qu'il fallait soit les avoir écrites devant soi, soit les avoir mémorisées à l'avance. Et là, il n'est pas question de dévier d'un mot, hein. Sinon, la divinité pouvait être fâchée. Et il fallait respecter aussi des positions, des gestes, des actes, et que tout soit fait dans le bon ordre. Ça ressemble beaucoup plus à la magie qu'à la prière. Mais des fois, on peut nous-mêmes être entraînés un peu dans cette pensée-là. J'ai appris à prier en écoutant mes aînés. Vous savez, j'ai grandi aux États-Unis et j'ai écouté les autres prier et j'ai commencé à prier. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est devenu naturel. Pour moi, c'était ça la prière. Alors je commençais à m'adresser à Dieu dans la bonne langue presque de Shakespeare, de la Bible. King James. Et au lieu de dire you, on dit thee. Ou thou. Mais on n'entend jamais ça aujourd'hui, hein. C'est pas les mots qu'on prononce aujourd'hui, hein. Sauf quelquefois dans la prière. Alors si les gens veulent prier comme ça, j'ai rien contre. Hein, s'ils sont plus à l'aise, d'ailleurs, encore aujourd'hui, quelquefois, si je décide de prier en anglais plutôt qu'en français, je me surprends à prier encore dans la langue de King James. Mais est-ce nécessaire? C'est pas la langue que j'utilise tous les jours. Ben non. Non, on peut s'adresser directement à Dieu dans la langue de sa langue maternelle, en fait. Et puis, je remarque qu'il priait en tout temps. Et il priait d'une manière qui semble avoir été adaptée à chaque situation. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'il osait presque pas lever la voix et il disait les choses à Dieu à voix basse. D'autres fois, il dit que carrément, il criait à l'Éternel. D'autres fois, il est dit qu'il s'exprimait à Dieu en chantant. Vous n'avez jamais prié en chantant? Si vous êtes un peu musicien et ça vous vient à la cœur comme ça, vous pouvez chanter aussi à l'Éternel, pourquoi pas. Et il a fait à chaque fois dans la langue qui était bien à lui. La clé de la prière pour lui, ce n'était pas une technique bien rodée, bien apprise, bien maîtrisée avec des mots jusqu'à mille fois. Hein. Vous n'avez jamais entendu cette expression « on fait des prières » ouais. Non, on ne fait pas de prière. On s'adresse à Dieu tout simplement. Et la clé pour lui, ce n'était pas la technique, mais cette attitude de soumission à l'Éternel qu'il fallait craindre, mais sans avoir peur de le rencontrer. Et aussi d'avoir confiance en lui. Il priait comme à une personne vrai, un ami qui était tout près de lui, il priait dans sa langue sans chercher à formuler quelque chose de bien hein, pour l'Éternel. Mais je remarque aussi que Moïse, il priait pour tous les sujets imaginables. C'est vrai. Il priait pour tous ses besoins. Parfois, il avait besoin de protection. Il demandait Dieu sa protection. Parfois, c'était la direction. Parfois, c'était la réponse à ses questions. Il priait en toute situation aussi. Parfois, Israël manquait d'eau ou de nourriture. Ah, il allait vers l'Éternel. Il n'avait pas la réponse lui-même. Mais il allait vers l'Éternel avec cela. Parfois, la nation était attaquée, par surprise, par les Amalécites, par exemple. Il fallait agir rapidement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne. Et il a levé les mains. L'Éternel. Je vois aussi qu'il priait pour toute personne. Il priait pour lui-même, il priait pour son peuple, et il priait aussi même pour ceux qui s'opposaient à l'Éternel, comme le Pharaon. Vous savez, il a prié pour le Pharaon au moins trois fois. C'est formidable. Dans la prière, il pouvait adorer Dieu, il pouvait le questionner, il pouvait lui demander pardon, grâce, miséricorde, secours. L'apôtre Pierre a encouragé les frères persécutés de son époque en disant ceci, « Déchargez-vous, celui des plus grandes de vos soucis. » Pardon, je me suis mal prononcé. « Et déchargez celui des soucis que vous n'arrivez pas à maîtriser vous-même. »
De tout.
Bon, oh, pardon. C'est de David ici. Hein? Oui, déchargez-vous celui de tous vos soucis. Je n'ose même pas vous dire certains sujets pour lesquels j'ai prié cette semaine. Et c'était bête. C'était pas aussi énorme que prier pour Nicolas qui n'ait pas un accident de voiture. Non, mais c'était des choses toutes bêtes. Mais j'ai vu le Seigneur agir, répondre. Il n'y a rien, ni de trop petit, ni trop grand pour notre Dieu. On peut tout lui présenter. Alors, qu'avez-vous sur le cœur ce matin? Hein? De la reconnaissance? J'espère. Nous avons peut-être la reconnaissance parce que Dieu nous a fait un bienfait, il nous a protégés. Il a fait ceci ou cela, nous sommes reconnaissants. Dis-le lui. Vous avez des craintes ce matin?
Oh, un pasteur ne doit jamais avoir crainte.
En tout cas, jamais l'admettre.
Va rester stoïque.
Non. Moïse pouvait facilement, librement exprimer ses craintes devant l'Éternel. Avez-vous un besoin urgent? C'est peut-être un besoin d'emploi, c'est peut-être un besoin, je ne sais pas, dans la famille. Je ne sais pas ce que ça peut être. Présentez-le-lui. Vous avez peut-être la joie dans votre cœur ce matin. Dieu vous a rétabli peut-être dans la santé. Vous êtes heureux, mais heureux. Quelques-uns ne sont pas encore revenus avec nous ici à la salle pour le culte. Le jour viendra et le Seigneur il est beau. Et quand le Seigneur nous met de la joie dans le cœur, ben c'est tout à fait normal de l'exprimer. Peut-être qu'il vous avez dans le cœur ce matin simplement la louange pour qui Dieu est. Il est amour. Il est bonté, il est plein de compassion, il est présent avec nous, il est, on l'a entendu ce matin, il est saint. Et des fois de simplement contempler Dieu élève notre âme vers lui dans la louange. Eh bien, dis-le lui, mes amis. Vous pouvez tout dire. Et je trouve que ce serait dommage si à la fin de ma vie, quelqu'un avec son chronomètre me dirait, Richard, tu as passé plus de temps sur les médias sociaux que dans la prière. Maintenant, je bénis le Seigneur aussi pour certains de ces médias qui nous permettent de rester en contact. Ça, c'est important, mais si c'est important, combien plus c'est important de rester en contact avec notre Dieu et de le prier. Nous pouvons lui présenter tout ce que nous avons sur le cœur. Il pouvait prier pour tout. Et puis je remarque que la prière n'était pourtant pas une manière de manipuler Dieu. Parce que est-ce que Dieu a donné à chaque fois à Moïse tout ce qu'il demandait? Ah non. Ah non. Quand Dieu a dit Moïse, je veux que ce soit toi qui va vers le pharaon. Est-ce que Dieu s'est détourné de sa volonté? Est-ce que Dieu a dit, oh oui, moi je comprends, j'ai peut-être choisi la mauvaise personne et je vais envoyer quelqu'un d'autre? Oh non. Moïse a appris qu'il y a un seul Seigneur. C'est qui? Pas lui. C'était pas à Dieu de se mettre à son service, mais à lui de se mettre au service de Dieu. Il y avait une autre fois que Myriam, je ne sais pas ce qu'il a piqué ce jour-là, mais elle a parlé contre Moïse. Et Dieu l'a entendu. Il a frappé de la lèpre. Et Moïse, lui-même qui était visé dans l'affaire, eh bien, il a imploré l'Éternel de lui faire grâce. Et l'Éternel a répondu, elle aurait fait ça à son père, elle aurait eu une punition. Elle va supporter sa lèpre pendant une semaine hors du camp. Oui, il fallait qu'elle supporte. Il y avait une autre fois que lui-même, il a imploré l'Éternel pour entrer dans la terre promise. Est-ce que Dieu a finalement dit, oui, ben ça fait, je ne sais pas combien de fois que tu me parles de cela, tu commences à me casser les pieds. D'ailleurs, c'est presque arrivé. Hein. À la fin, il est quelques jours sans doute avant sa mort, sur le mont Nebo, qu'encore il évoque le sujet avec l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel s'est irrité contre lui, et il lui a dit, tu ne m'en parleras plus. Tu ne vas pas entrer. Non, vous savez, la prière n'est pas une manière de faire la guerre avec Dieu, de faire, comment on appelle ça? Voilà, il y en a qui sont plus forts que moi. Et le bras de fer avec l'Éternel et dire, oh, il va voir, hein, je vais gagner cette fois-ci. Non. Nous ne gagnons pas contre la volonté de Dieu en cherchant des phrases plus fleuries, vous savez, pourtant Jésus-Christ, les pharisiens, pensaient que Dieu allait leur répondre s'ils priaient plus longtemps.
Alors, je ne sais pas si quelqu'un avait chronométré ça non plus. Hein? Est-ce qu'il faut que je prie une heure, deux heures, ou quelque chose? Mais je vais prier finalement, puisqu'il voit que je suis encore sur mes genoux, là, il va prier à ma volonté. Donc, Dieu est Seigneur. Aujourd'hui, quelquefois, on entend que si je jeûne et prie, là, le Seigneur va répondre. Est-ce qu'il répond automatiquement parce que non pas seulement nous prions, mais nous affligeons notre corps? Non, pas non plus. Nous avons cette parole dans le premier épître de Jean, chapitre 5, où il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et c'est là où nous devons le passer. Alors j'admets que c'est assez rare qu'avant de prier dans une réunion de prière ou autre, que je passe mes sujets de prière devant la grille de la volonté du Seigneur pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans ça? Je pense que quelquefois, la chose, la prière la plus sage qu'on peut énoncer devant le Seigneur, c'est, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Amen.
Et que nous l'acceptons, hein? Que nous l'acceptons. Alors, il priait à un ami. Il ne cherchait pas à suivre une espèce de façon plus appropriée pour s'adresser à Dieu. Il pouvait être tout naturel devant lui. Il pouvait prier pour tout ce qu'il avait dans son cœur. Et il ne cherchait pas à manipuler Dieu non plus. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et ça, c'est que Moïse attendait la réponse de l'Éternel. Il ne priait pas dans cette idée que, ben, j'espère que peut-être il va m'écouter, je ne sais pas vraiment s'il m'entend. Non, il attendait la réponse de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a persévéré sur la montagne avec Aaron et Hur pendant toute une journée. C'est le jour où ils avaient été attaqués par les Amalécites. Josué devait descendre dans la vallée pour faire la guerre contre eux. Et lui, il faisait la guerre sur la montagne avec ses deux compagnons, en priant l'Éternel. Les mains levées. Mais, au bout d'un certain temps, la Bible dit que ses bras commençaient à peser. Il avait du mal à les tenir vers l'Éternel dans ce geste d'invocation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Aaron et Hur? Ben, ils l'ont aidé, l'un à l'autre côté, l'autre à l'autre côté, à tenir les bras. Oh, c'est bien de prier quand on est tout seul à la maison, hein. Et Dieu, il est là, oui, et on a le droit de le rencontrer là, dans l'intimité de ce que Jésus a appelé notre chambre. Mais c'est bien aussi de rencontrer des frères et des sœurs en Christ, et de trouver une force, et de savoir qu'on est soutenu aussi dans notre prière. Vous n'avez pas du mal, quelquefois, à prier, à persévérer dans la prière? Moi, j'ai quelquefois du mal. Est-ce que ça vous arrive de passer une journée et puis à la fin de la journée, vous dites « Oups, j'ai pas pensé à prier. » Ça vous arrive aussi? Oui. Mais combien il est bien d'avoir des frères et sœurs autour de soi qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider à nous rappeler, à connaître la volonté de Dieu et nous remettre devant lui. Il est dit aussi, et là je l'ai découvert à la fin de, je crois, le livre des Nombres, lorsque Moïse raconte toute l'histoire des années qu'il avait passées dans le désert avec Israël. Et il a dit à un moment donné que, vous vous souvenez de cette histoire où le peuple avait demandé à Aaron, Moïse étant sur la montagne, à Aaron de faire un dieu. Et il a fait le veau d'or. Et Moïse, il est descendu, il a vu, il y avait un moment de jugement, et puis après, Moïse est remonté sur la montagne. Et là,
À la fin de sa vie, il raconte ce qu'il avait fait sur la montagne. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Incroyable. Incroyable. J'ai jamais prié aussi longtemps. Le plus longtemps que j'ai jamais prié, c'est sans gloire pour moi-même, et c'était quand j'habitais encore à Nantes et que je devais aller à Algrange pour enseigner à l'Institut. J'avais à peu près 10 heures de route devant moi, parce que je ne prenais pas l'autoroute. Et je prenais les nationales, les départementales. J'avais du temps devant moi, et je me dis, la radio, ça devient lassant au bout d'un certain temps. Et je me dis, je vais prier. J'ai appris aussi qu'on n'est pas obligé de prier les yeux fermés, hein. J'ai pas fait une conduite en priant les yeux fermés non plus. Il m'a battu le Seigneur. Non. Les yeux ouverts. Essayant de faire bien attention. Eh bien, je pouvais passer des heures. Au début, c'était difficile. J'ai grandi à la campagne et nous avions pour source d'eau un puits derrière la maison avec une pompe. Quelques-uns connaissent ça? Ouais. C'est ça qu'il y a en France où on tourne comme ça. Mais il y en a aussi avec un manivelle et on est obligé de pomper. Mais en hiver, surtout si on n'avait pas cherché de l'eau depuis un moment, eh bien, le petit piston là, ça séchait et ça n'étirait pas l'eau. Il fallait que j'amorce la pompe. Mon père m'a appris qu'il fallait que j'amène un peu d'eau de la maison, que je le mets dans la pompe et que là, les joints qui étaient là, qui allaient gonfler à ce moment-là et faire la pression hein, pour tirer l'eau du bas. Eh bien, il fallait que j'amorce la pompe. C'est ce que je devais faire dans la voiture. Hein? Au début, quand j'ai eu cette idée de prier en roulant comme ça, je me dis, bon, au bout de 5 minutes, je ne peux rien à dire. je ne sais pas. Et puis, un autre sujet qui me venait à l'esprit. Alors, au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que je pouvais prier 3 fois autour du monde en pensant à tout le monde. Je pouvais prier tout mon livre de théologie. Seigneur, merci parce que tu es comme ça et comme ça. Et j'avais pas du mal à remplir le temps, mais j'ai jamais atteint les 40 jours et les 40 nuits. Comment expliquer cette persévérance dans la prière s'il n'y avait pas derrière elle cette conviction « Dieu m'entend ». Et Dieu répond. Il était convaincu en la réponse de l'Éternel. Quand il était plus jeune, Moïse pensait qu'il pouvait tout faire par lui-même, même sans attendre Dieu. Je vais délivrer Israël. Il pouvait tout. 40 ans plus tard, quand Dieu l'appelle à aller délivrer Israël, c'était comme s'il ne pouvait plus rien faire. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie chrétienne, entre le « je peux tout »,« je ne peux rien ». La différence entre les deux, c'est la grâce de Dieu, qui nous prend, qui nous humilie quelquefois, parce qu'il nous le faut, qui nous relève quelquefois et nous fortifie pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je citais 1 Jean chapitre 5 verset 14. À l'instant, j'aimerais terminer par le verset 15. Verset 14. Nous avons devant lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et le verset 15 dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, qu'elle soit. Et bien que le Seigneur nous encourage dans notre vie de prière à aller vers un Dieu vivant qui est là. Et quand nous ouvrons nos volets, nos fenêtres devant lui, on peut sentir presque la brise de sa respiration sur la nuque.
aimer l'homme et de sans chercher à faire quelque chose de compliqué, d'être simplement naturel avec lui, présenter tout ce que nous avons sur le cœur, en nous pliant à sa volonté et en attendant sa réponse.